Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jérémie au chapitre 18, du 1er au 6e verset. Jérémie 18. Jérémie 18, du verset 1er au verset 6. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il y avait sur un tour. Il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Voilà ce que le Seigneur dit à Israël. Il parle au prophète Jérémie. Il lui dit, va dans la maison du potier, voir comment le potier travaille. Et Jérémie arrive, il voit le travail du potier. Et on nous dit ici que le potier travaille sur un tour, et lorsqu'il fabrique son vase et que ça ne réussit pas, il recommence jusqu'à ce qu'il ait fabriqué un vase selon ses attentes à lui, selon son aspiration, selon l'utilité aussi qu'il a pour le vase. Alors il recommence. Et en lisant ce passage, il y a une chose qui saute à l'œil, c'est que le potier, quand il travaille, il est patient, il prend son temps. Et Dieu se compare au potier et il nous compare, nous, à l'argile. Il dit, le potier travaille. Et quand ça ne marche pas, il recommence, il prend son temps. Il n'est pas pressé par le temps. Son objectif à lui, c'est que le vase soit bien fait, ainsi il sera utile, ainsi il pourra durer longtemps. Mais l'objectif du potier, c'est de façonner, de travailler, de recommencer, d'ajuster. Et Dieu dit, ce travail qu'il fait, c'est la même chose qu'il fait avec Israël, mais ici pour nous aujourd'hui, c'est le même travail que Dieu fait avec nous. Le thème de notre exhortation ce soir, c'est acceptons le travail que Dieu fait en nous. Dieu, la Bible dit dans Luc 6, 40, que tout disciple accompli sera comme le maître. Et on nous dit dans Philippiens 2, l'apôtre Paul nous dit, ayons les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Bien souvent, on voit en Jésus-Christ la puissance, la résurrection, la gloire, c'est ça. Mais cette gloire-là est passée par le brisement, est passé par le fait d'être façonné par son Père, comme il est écrit dans Hébreux 5, au verset 8, il est écrit que Jésus, lui qui est le Fils, obéissant, fidèle, sans péché, il est passé quand même, il a appris l'obéissance par la souffrance qu'il a vécue. Est-ce que Jésus n'était pas obéissant? Bien sûr qu'il était. Jésus n'a pas péché. Mais il a accepté de se soumettre au travail de son Père, étant sur la terre. Il a accepté d'être calomnié. Il a accepté d'être critiqué. Les mêmes qui ont applaudi pour dire « Voilà le Fils de Dieu !» Les mêmes ont dit « Crucifie-le ! Sauve-toi toi-même !» Il a été trahi. Mais Jésus considérait que c'était le travail que son Père était en train de faire. Et lorsque nous ne discernons pas ça, on va en vouloir aux hommes en disant « Mon père est mauvais, mon mari est méchant, mon chef au travail ne m'aime pas. » Or, le Seigneur nous dit aujourd'hui, en réalité, c'est lui le potier, c'est lui qui pilote, c'est lui qui est à la manœuvre. Et il travaille, il prend son temps. On était peut-être de nature impulsive. Et bien le Seigneur nous met dans des situations pour qu'on manifeste la maîtrise de soi. On a envie de répondre. Ça brûle, on souffre. Le Seigneur veut qu'à ce moment, on dise, Seigneur, aide-moi. Hier, j'ai répondu, j'ai blessé quelqu'un, j'ai mal parlé. J'ai sorti une parole qui n'était pas appropriée. Seigneur, aide-moi. Nous lisons aussi Jean au chapitre 15, ce que le Seigneur Jésus nous dit. Jean 15, 1 à 2. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit que le sarment qui porte de fruits, eh ben, il travaille, il émonde. Ce qui n'est pas bon en lui, eh ben, il enlève. Mais ce travail-là que le Seigneur dit, c'est quelque chose qui fait mal à la chair. Ça fait mal à la chair. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que l'Éternel, ce qu'il fait est bon. Même si, c'est vrai, ça fait mal à la chair, mais nous, nous sommes désormais les enfants de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est victorieux sur notre chair. Lorsque la chair souffre, on dit, Seigneur, aide-moi à avoir la bonne attitude. Seigneur, soutiens-moi. Là, je sens que je sors de mes gonds, Seigneur. Mais je ne veux pas désobéir. Alors aide-moi à avoir la bonne attitude. C'est ça le combat. Acceptons le travail que Dieu fait en nous. Dieu fait un travail en nous. Il fait un travail. Mais la différence, c'est qu'il y en a qui vont accepter ce travail-là. Il y en a qui vont accepter lorsque Dieu dit, tu as tort dans une situation où tu as raison. Dieu te dit, tais-toi. Il y en a qui vont accepter, mais il y en a qui vont refuser. Lorsque Dieu dit, soumets-toi. Il y en a qui vont accepter. Et il y en a qui vont toujours trouver des arguments pour dire, mais regarde Seigneur, mais non. Le Seigneur est en train de nous travailler. Et l'objectif, c'est que le vase atteigne la nature que le potier est en train de construire. Et cette nature-là, c'est la nature de Jésus-Christ. Le thème de cette prédication, c'est moi le premier. Lorsque nous sommes confrontés parfois à des jeunes, comme il y a un collègue qui me dit, la gifle est partie tout seul. Un collègue qui est connu comme étant très, très patient. Et ce jour-là, il dit, la gifle est partie tout seul. Et j'étais assis, je regardais parce que j'ai déjà eu affaire à ce jeune-là. Et la pensée qui m'est venue, c'est que c'était un jeune qui était là. C'est un jeune en souffrance, beaucoup de souffrance, qui manifeste par la violence. Personne ne veut de lui, personne. Tous les établissements où il est passé, catastrophe. Il a même frappé des éducateurs. Et la pensée, moi, qui m'est venue, c'est que ce jeune-là est là pour recevoir, pour entendre au moins qu'il y a un Dieu d'amour qui existe. Il n'y a pas que la violence. Dieu existe. Certes, dans ce monde, il y a des injustices parce qu'il se pose la question, mais pourquoi si... Je dis oui, ce monde est injuste à cause du péché qui est entré, mais Dieu est la solution. Et maintenant, à chaque fois qu'il est dans la provocation, moi, je considère que c'est un instrument que Dieu a mis pour me travailler, pour m'aider. Parce que c'est bien beau d'être chrétien parmi nous, c'est très bien. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Mais la véritable vie, voilà pourquoi le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et il dit, la lumière, on ne la place pas sous la table, on la place au-dessus, afin qu'elle éclaire. Et c'est ça, être chrétien. Être chrétien, c'est avoir Jésus comme maître. Pas seulement dans ses locaux, mais avoir Jésus comme maître, là où il y a des païens aussi. Parce que là, personne ne te voit, mais le Seigneur te voit. Lorsque tu veux réagir, tu dis, ah Seigneur, pardonne-moi. Et comme je disais tout à l'heure, il y en a qui acceptent le travail du potier et il y en a qui résistent. C'est ce qui explique, on se dit, mais deux personnes se sont converties presque à la même période. Pourquoi il y en a un qui avance et l'autre n'avance pas? Lorsque je dis avancer, je ne parle pas de connaître les versets. Je ne parle pas de ça parce qu'il y a des païens qui connaissent les versets aussi par cœur. Quand je dis certains qui avancent, c'est certains qui se soumettent à la Bible, qui vivent la vérité tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. Lorsqu'il fait mal, il va voir la personne pour dire « Bien-aimé, pardonne-moi parce que j'ai mal parlé, parce que j'ai mal agi. Mon désir, c'est de plaire à mon Dieu. » C'est cela. Et dans notre vie de tous les jours, le Seigneur est en train de travailler comme un potier. Il est en train d'agir. Nous lisons ce que Dieu dit à Israël dans Deutéronome. C'est un passage que nous connaissons. Ce que Dieu dit à Israël, Deutéronome 8 au verset 2. Du verset 2 au verset 5, on peut lire. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Alors, pour nous remettre un petit peu dans le contexte, dans Nombre, au chapitre 13, lorsque le peuple d'Israël sort de l'esclavage en Égypte, il est écrit dans Nombre 13, au verset 17, « Dieu a choisi volontairement de les faire passer par le chemin du désert, alors qu'il y avait un autre chemin, par chez les Philistins, qui était plus court. Dieu choisit volontairement de les faire passer par le désert, en se disant, s'ils passent par l'autre chemin, ils risquent d'avoir peur à cause des guerres et revenir finalement, ne pas entrer dans la terre que j'ai promis. » Et pendant cette marche dans le désert, Dieu dit, je ne vous ai pas fait passer par là. Tout simplement pour le plaisir. J'avais un objectif. J'avais un projet. En vous faisant passer par ce chemin-là, l'objectif de Dieu, c'était d'apprendre au peuple de dépendre de Dieu. D'avoir la crainte, de voir tous les miracles que Dieu produisait, que cela puisse produire en eux la crainte. On nous a déjà parlé de ça un mardi en disant ce chemin-là, c'est un chemin, lorsqu'on compte aujourd'hui, ça, c'est environ 11, 12 jours. Mais nous avons lu, ils sont restés pendant combien de temps? 40 ans. Voilà un chemin qui dure 11 jours, 12 jours, il reste 40 ans. Lorsque je méditais ça, je me dis, mais comment est-ce possible? Oui, c'est possible, parce que Dieu, comme nous l'avons dit, hein, le potier, c'est ça l'amour de Dieu. Dieu est bon. Donc s'il y en a qui ne sont pas sauvés, c'est qu'ils refusent le travail que Dieu fait. Ils refusent de se soumettre à Dieu. Pendant 40 ans, au lieu de 11 jours, Dieu est patient. Le peuple refuse. Moïse, nous voulons la manne. Moïse, nous voulons de l'eau. Moïse, nous voulons ceci. Moïse, à chaque fois. Et Moïse va voir Dieu en disant, mais Seigneur, mais ce peuple va me lapider. Dieu dit, non, ce n'est pas contre toi. C'est contre moi qu'il parle ainsi. Tout ce temps-là, le peuple a passé à errer dans le désert, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas accepté le travail que Dieu est en train de faire. Dépendre de Dieu. Avoir foi en Dieu. Tous les prodiges que Dieu faisait, c'était ça l'objectif. Qu'ils comprennent que Non seulement Dieu nous a libérés de l'Égypte sans aucune arme, il nous a fait traverser la mer Rouge. Le but de Dieu, c'était pour du peuple. Le but de Dieu pour le peuple, c'était qu'il comprenne cela. Et il dit, je t'ai humilié avec cet objectif. Et malheureusement, lorsque le Seigneur nous fait passer par des chemins qui ressemblent au désert, le désert, souvent dans le milieu chrétien, nous assimilons ça aux épreuves. À ce moment-là, on cherche le coupable. On cherche le coupable à ce moment-là. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui qu'il fait un travail. Dans l'épreuve dans laquelle je suis, dans la difficulté dans laquelle je suis, qu'est-ce qu'il y a de bon que je dois tirer là-dedans? C'est ce que dit Romains 8, « Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. » Il y a un objectif, il y a quelque chose de bon. Même dans le malheur, dans la souffrance, il y a un enseignement, une richesse à tirer de cela. Et malheureusement, beaucoup tournent en rond. Chrétiens depuis 5 ans, depuis 10 ans, on a l'impression que la personne est au rond-point, au même niveau. En réalité, c'est parce que nous refusons de dire « Seigneur, j'ai échoué, Seigneur, aide-moi. » C'est tout ce que Dieu attend. C'est tout ce que Dieu attendait de ce peuple. C'est tout ce que Dieu attendait de ce peuple. Il a choisi de les faire passer par là pour qu'ils soient seuls avec Dieu. Dans le désert, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien autour, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Mais ce texte nous montre que le cœur de l'homme est difficile. Même seul avec Dieu, il peut continuer à résister quand même. Et Dieu a été patient, patient, patient. Finalement, jusqu'à ce qu'à un moment, il arrête, il dise, bon, c'est fini. Dans Nombre 13. Il dit, maintenant, ce peuple n'entrera plus dans la promesse que j'ai faite. Et c'est le cas de beaucoup. Dieu est en train de nous travailler tous les jours. Tous les jours, Dieu fait son œuvre, son travail. Le diable va te dire, mais regarde, hier tu as mal répondu, tu t'es mal comporté. Et tu crois que demain, non, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Dieu est le potier. L'exemple du potier nous rappelle que c'est possible. Même si hier j'étais mauvais, eh bien aujourd'hui, le Seigneur peut me faire quelque chose de nouveau en moi. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. C'est ça que ce texte nous dit. Acceptons le travail que Dieu fait dans notre cœur. Nous connaissons ce qui, en nous, nous empêche d'avancer avec le Seigneur. Nous le savons. Et Dieu le sait aussi. Et à chaque fois, il va nous rappeler. Mais parfois, on fait semblant. On veut éviter, on ne veut pas, mais Dieu reviendra toujours sur ce point-là pour dire, voilà, peut-être que c'est le manque de pardon. On peut faire semblant, on peut faire toutes les œuvres qu'on veut, Dieu va nous ramener à cela pour dire, non, tu n'as pas pardonné. Tu fais semblant. Dieu est en train de faire une œuvre dans notre cœur. Il travaille dans notre cœur. Mais quelle est la réponse que nous donnons? Est-ce que nous acceptons de nous humilier? Beaucoup de situations traînent parce que c'est nous-mêmes qui résistons à Dieu. Et ça a été le cas dans Deutéronome 8. Beaucoup de situations traînent. On se dit, mais pourquoi Seigneur, mais pourquoi? Dieu sait. Alors notre prière aujourd'hui, c'est de dire, Seigneur, si je ne sais pas ce qui traîne en moi, ce qui m'empêche d'avancer avec toi, révèle-moi cela, afin que je sois délivré. Nous lisons dans Marc, au chapitre 10, c'est l'histoire du jeune homme riche qui vient voir le Seigneur. Marc 10, au verset 17. Marc 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à ses genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Voilà ce que nous dit la Bible de cet homme. Il vient voir le Seigneur et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Le Seigneur lui dit ce qu'il doit faire. Il dit, « Oui, Seigneur, depuis que je suis jeune, j'accomplis tout ce que tu as dit. » Et il nous est écrit ici, Jésus l'aima. Il lui dit, « Mais regarde, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, toutes tes richesses, et suis-moi. » Et là, on nous dit, l'homme, affligé par ce qu'il a entendu, il s'attendait à entendre une formule que le Seigneur allait lui donner. Va faire une offrande spéciale, va aider les pauvres, ouvre peut-être un orphelinat, quelque chose. Le Seigneur lui dit, c'est bien. Maintenant, vends tout ce que tu possèdes et viens et suis-moi. Et l'homme s'en alla triste. Triste. Dieu est en train de faire une œuvre en nous. Et cette œuvre qu'il fait là, la question c'est comment je réponds ? Est-ce que j'accepte de me laisser faire ? Est-ce que j'accepte de me laisser dépouiller ? Cet homme, c'était des richesses. C'est un texte que nous connaissons. Mais nous, aujourd'hui, ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait de pardonner. Mais on se dit, non, là, Seigneur, sur ce point-là, ce n'est pas possible. On m'a fait trop de mal. Et même s'il arrivait que je pardonne, que vont penser les autres ? On se dit, Seigneur, je suis prêt, comme beaucoup disent, hein, je suis prêt à suivre le Seigneur, mais par rapport à cette situation-là, que Dieu me laisse encore le temps. Non. Non. Le Seigneur veut régner totalement en nous. C'est ça être chrétien. Être chrétien, la conversion, c'est le fait de faire demi-tour. C'est-à-dire qu'on meurt à notre ancienne vie, on vit maintenant avec un seul maître, un seul chef, qui est Jésus. C'est lui qui dirige notre vie. Et comment nous connaissons sa volonté ? C'est par la parole, ce que dit la Bible. Et on se soumet. On se soumet. Et ce jeune ne s'attendait pas à cette réponse-là. Il dit, Seigneur. Et voilà qu'il est parti. Triste. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi il était triste ? Pourquoi il était triste ? Je pense qu'il était triste parce que il a refusé au fond de lui l'ordre que le Seigneur lui a donné. Il a refusé. Il a dit en quelque sorte, je ne suis pas d'accord. Je me rappelle une fois, je parlais avec une personne et on est arrivé à parler de la soumission. La personne me dit, une personne chrétienne, elle me dit, mais vous exagérez avec la soumission. C'est culturel ce que vous dites, la soumission de la femme à l'homme, c'est culturel. Mais la colère dans laquelle cette personne s'est mise. Pourtant, peut-être que sur tous les autres points, la personne aime le Seigneur. Mais il y a des points, des richesses qu'on ne peut pas toucher. Et là, ce jour-là, dans la discussion comme ça, Je ne parlais même pas avec la personne et la personne s'est mise dans un état. Et pour cette personne-là, c'était ce cas-là. Mais pour nous, il y a des choses dans nos vies auxquelles nous ne voulons pas renoncer. Et c'était le cas pour ce jeune. Voilà triste. Il a refusé le travail que le Seigneur voulait faire. Le Seigneur voulait le délivrer totalement. De l'amour, peut-être des richesses, de sa sécurité. Peut-être que toute sa force, il aimait Dieu, c'est vrai, parce que Jésus l'aima. C'est vrai ce qu'il a dit. Mais il avait un autre maître à côté. C'est ça. Or, le Seigneur dit qu'on ne peut pas avoir de maître. À un moment donné, dans la vie, viendra un temps où on fera un choix. Est-ce que c'est Dieu qu'on choisit ou alors c'est l'autre maître qu'on a? À un moment donné, viendra le temps de faire le choix. On peut se cacher derrière toutes les apparences, mais à un moment donné, le temps de faire le choix viendra. Et le Seigneur nous prévient. Et il nous dit, voilà pourquoi il est en train de travailler comme le potier. Il est en train de recommencer. Il fait, il regarde. Il dit, non, là, ça ne va pas. Il change. Et à ce moment-là, on se plaint, on crie. On est même parfois en colère après Dieu. On est dans l'incompréhension. On pense que Dieu aime les autres. Dieu ne m'aime pas moi. Dieu est favorable dans la vie des autres. Dieu n'est pas favorable dans ma vie à moi. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Alors acceptons le travail que Dieu fait dans notre vie. Nous allons voir des exemples des personnes qui ont accepté le travail de brisement que Dieu a fait dans leur vie. Il y a beaucoup, et c'est tous les héros de la foi, et même dans le Nouveau Testament, les disciples qui ont suivi le Seigneur, tous les jours, ils ont accepté de renoncer, que ce soit à la culture, de renoncer à certains enseignements. On se rappelle Pierre, lorsque le Seigneur dit « il faut manger ma chair, boire mon sang ». Lorsque nous lisons ça, c'est quelque chose, bon, avec le recul, bon, ça ne nous choque pas. Mais imaginons-nous un peu dans le contexte où ils ont appris que le sang, on ne doit même pas avoir un contact avec parce qu'il y a la vie dans le sang. C'est péché de toucher au sang. Et Jésus vient, il dit des paroles bien sûr spirituelles, mais à ce moment-là, les disciples qui étaient là, ils se sont dit, mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Et Jésus se retourne vers Pierre pour dire, mais toi, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Il dit, Seigneur, on n'a pas tout compris. On n'a pas tout compris. On est dans la confusion avec ce qu'on a appris de nos pères, avec ce que toi tu nous dis. Mais on sait une chose, c'est que ta façon de parler, ta façon de vivre témoigne que réellement tu es de Dieu. Donc les paroles que tu dis sont les paroles de la vie. Et nous croyons en cela. C'est cela. Dieu fait un travail dans notre vie. Il veut nous délivrer de la puissance de la culture, nous délivrer de tout ce qui est richesse. Certains, c'est leur nom de famille. Ils diront, on ne blague pas avec ma famille. On est chrétien, mais lorsqu'on commence à parler de la famille, on sent que la personne commence à trembler. Et bien, le Seigneur veut qu'on le mette à la première place. Il veut qu'on renonce à cela. Voilà pourquoi Jésus dira, Luc 9, 23, quiconque veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il prenne sa croix. Qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix. Quand? Chaque jour. Chaque jour. Donc, pas hier, après une pause demain, après. Non, chaque jour. Donc, à chaque instant, pendant que tu vis, la situation se présente devant toi, tu réfléchis, tu médites, tu dis, qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse à ce moment-là? Est-ce que je dois me soumettre aux coutumes de la famille ou est-ce que je dois me soumettre à Dieu? Sachant qu'en me soumettant à Dieu, en me confrontant, en me mettant en opposition à la famille, il y aura des représailles derrière. Mais Seigneur, je choisis de souffrir dans la chair, peut-être le rejet, ne plus être invité le 24 décembre, comme c'est le cas pour certains, ne plus être invité au repas de famille. Mais Seigneur, je ne veux pas désobéir à ta parole. C'est cela. Tout ce que Dieu fait dans notre vie à partir du moment où nous sommes chrétiens, c'est programmé, il y a un objectif. Et le Seigneur dit qu'il a un projet, un plan qu'il a fait pour nous. À partir du moment où nous sommes enfants de Dieu, tout ce qui nous arrive, c'est le processus que Dieu a choisi pour nous travailler. Pour travailler notre cœur. Pour nous émonder. C'est cela. Nous lisons 1 Samuel. L'histoire d'une femme qui a été rendue stérile par Dieu. Et nous allons voir la leçon que nous pouvons tirer de ce que le Seigneur veut nous enseigner. Il y avait un homme, 1 Samuel chapitre 1, verset 1er, il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tsoui, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Verset 5. Il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répondais mon âme devant l'Éternel. » Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. On peut s'arrêter, on peut continuer. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, j'ai demandé à l'Éternel. Amen. Voilà l'histoire de cette femme, Anne. Et on nous dit que Dieu l'avait rendue stérile. C'est Dieu qui a voulu les choses ainsi. Dieu l'a rendue stérile. Et nous venons de lire ce que cette décision de Dieu a eu comme conséquence dans la vie d'Anne. Quelle souffrance! Quelle souffrance de ne pas pouvoir donner naissance, mais en plus d'être l'objet de railleries, de moqueries. Mais quelle souffrance! une véritable souffrance. Mais ce qui est merveilleux, c'est que quand on lit, on voit que Anne n'a rien imputé de mal à Dieu. Anne n'a pas accusé Dieu. Anne allait régulièrement prier. Tous les jours, elle était au temple. Il est arrivé même que le sacrificateur se moque d'elle. Par ignorance, bien sûr, en disant, mais fais passer ton vin. Jusqu'à quand tu seras comme ça? Le sacrificateur qui peut représenter l'autorité de Dieu quand même. Imaginons que nous sommes dans l'affliction. Eh ben, le serviteur de Dieu qui est censé nous encourager, nous fortifier, c'est lui qui nous sort une parole comme ça. Mais c'est dur. Si on n'est pas attaché à Dieu, eh ben on peut craquer. Mais malgré ces paroles, Anne reste attachée au Seigneur. Elle dit, non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. C'est que j'ai un chagrin dans mon cœur. Et ce chagrin, je l'exprime au Seigneur, à mon Dieu. Anne a accepté le travail que Dieu a fait, est en train de faire dans sa vie. Bien souvent, lorsqu'il nous arrive des choses, on se dit, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre? L'autre, il est toujours joyeux. Il a toujours le sourire. Les mauvaises nouvelles, c'est toujours moi. Il y en a qui disent, il n'y a rien qui marche, il y a même l'expression qu'ils emploient. Pour dire, je n'ai pas la chance. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas question de chance. En tant qu'enfant de Dieu, il y a la question du plan de Dieu. Amen. On ne parle pas de chance. La chance, c'est le hasard. Et avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu sait ce qu'il fait. On a lu, c'est Dieu qui l'a rendu comme ça. Parce que Dieu avait un objectif, un grand objectif. Mais ce grand objectif de sortir un prophète pour Israël. Mais pour arriver à cet objectif, il est passé par une personne. Il est passé par Anne. Et c'est vrai, pendant ce temps-là, elle souffrait. Elle pleurait. Elle priait. Et ça a traîné, comme on a dit. Parfois, les choses traînent parce que on refuse de nous soumettre à Dieu. On refuse de faire la bonne prière, de dire, Seigneur, non pas ma volonté à moi, Seigneur, que ta volonté se fasse. Même si moi, j'aurais désiré, Seigneur, ceci, mais tel que je vois les choses, je comprends que tu veux m'amener là. Alors, Seigneur, donne-moi la bonne attitude. C'est ça la prière qu'on doit faire. Seigneur, donne-moi la bonne attitude pendant ce temps-là. Comme on a déjà beaucoup partagé ce passage. Peut-être que la demande de Anne, c'est une demande légitime d'avoir un fils. C'est légitime. Mais Dieu, lui, avait un autre objectif. C'était de passer par un canal propre, un canal saint, sans amertume, sans mauvais sentiments, sans esprit de revanche, en disant, voilà, moi aussi je suis capable. On s'est moqué de moi. Voilà maintenant ce que Dieu a fait. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu n'a pas besoin de prouver qu'il est Dieu, il est Dieu. Et ceux qui le reconnaissent, ceux qui sont ses enfants, ils reconnaissent qu'il est Dieu, même dans les difficultés, ils reconnaissent. Et c'était le cas pour Anne. Pendant qu'elle allait tous les jours, pendant qu'elle pleurait, pendant qu'elle gémissait, Dieu était en train de toucher son cœur. De toucher son cœur. De toucher son cœur. Jusqu'au jour où elle a dit, Seigneur, j'accepte de renoncer à mon droit. J'accepte, Seigneur, de perdre sur cette terre. Je voulais un enfant pour moi. Pour qu'on voit que je suis une mère. Mais Seigneur, j'accepte de perdre même ce titre-là, J'accepte de renoncer à cela. Alors si tu me donnes un fils, je te le consacre. La gloire te reviendra à toi seul. Et là, le Seigneur a agi. Anne a eu un enfant qu'elle a bien sûr consacré à Dieu. C'est pour nous dire que toutes les situations par lesquelles nous passons, Dieu est en train de faire un travail. Dieu est en train de faire un travail. L'objectif de Dieu, ce ne sont pas les bénédictions ici sur la terre. Ce n'est pas ça. L'objectif de Dieu, c'est que on puisse ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça ton objectif. L'objectif de Dieu, c'est nous purifier de toutes les colères qu'on a dans le cœur, toutes les rancœurs, toutes les amertumes. C'est ça son objectif. Et il a pris son temps avec Anne. Mais Anne a accepté aussi le travail que Dieu a fait. Elle a accepté de s'humilier. Elle a accepté d'être moquée. Elle a accepté d'être pointée du doigt. Mais elle a accepté ça pour la gloire de Dieu. Et nous aussi, comprenons que puisque nous sommes les enfants de Dieu, eh bien, Dieu passera par nous pour être une source de bénédiction pour les autres. Notre souffrance à nous n'est pas une souffrance vaine. Dieu l'utilise pour bénir les autres. C'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas, pour Israël? C'est que par cette situation que Anne a vécue, tout Israël a été béni. Tout le peuple a été béni. Et voyons aussi les choses de cette manière-là. Quand nous passons par toutes ces situations, acceptons-les parce que la gloire que Dieu prépare est plus grande. Et l'objectif de Dieu, ce n'est pas de nous perdre. L'objectif de Dieu, c'est que quand sa gloire se manifeste, la bénédiction se manifeste, qu'on dise à Dieu seul la gloire. C'est ça l'objectif de Dieu. Et pour cela, il y a un travail qu'il fait dans l'humiliation, dans la prière. La prière, c'est parler à Dieu, mais la prière, c'est une condition où on s'humilie aussi parce qu'on demande à quelqu'un. On demande à Dieu. On demande son soutien. C'est une humiliation, on s'humilie. On dit, Seigneur, on ne peut pas. On n'a pas de force. Comme Josaphat a fait cette prière. Nous sommes sans force sans toi. Aide-nous. Et c'est ça que Dieu veut. Et parfois, lorsque nous sommes dans cette situation-là, plutôt que de prier, on est là à bouder, à ronchonner, à parler, à dire voilà l'autre. C'est pas normal. Non. Tant que nous sommes dans cette attitude, les choses vont traîner. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions accepter le travail qu'il est en train de faire. S'il veut nous briser, s'il veut nous humilier, que nous puissions accepter. Il est écrit dans Lamentations 3, que ce n'est pas en vain que Dieu humilie le Fils de l'homme. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour le plaisir. Ce n'est pas pour le plaisir. Dieu a un objectif. Il a un objectif. Et lorsqu'on refuse cela, Dieu est patient. Il va attendre. On continue à refuser. Il va attendre. On continue à refuser. Malheureusement, on risque même de sortir de la voie de Dieu. On se rappelle de Saül, à qui Dieu a donné des recommandations dans 1 Samuel 13, clair. Tu attends le terme, 7 jours. Finalement, il attend, il voit que Samuel ne vient pas, il fait le sacrifice. Mais quand Samuel lui dit, tu attends 7 jours, mais Dieu sait pourquoi il dit ça, il est l'Éternel, amen. Il est Dieu. Il veut montrer à Saül, il veut lui dire, eh ben, c'est moi qui décide. Quand est-ce que tu dois aller? Mais l'autre, il voit l'armée partir, les hommes partir, il se dit, ah bon, là, Il faut que j'aille. Je fais le sacrifice et j'y vais. Et à ce moment-là, le prophète arrive. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais j'ai vu le peuple s'en aller. Et alors, je me suis fait violence. J'ai voulu faire un sacrifice à Dieu. Il dit, non. Dieu a donné une instruction claire. Tu n'avais qu'à te soumettre à l'instruction. Tu n'avais qu'à te soumettre. Et c'est là que Dieu veut nous amener. Dans le travail qu'il fait, c'est nous amener vraiment à nous soumettre totalement à sa parole. Parce qu'on peut se dire, mais 7 jours, bon, 6 jours, 7 jours, c'est quoi la différence? Oui, il y a une différence. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Il y a une différence. Et la deuxième fois, il lui désobéit encore. Dévoue par interdit, 1 Samuel 15. Tout ce qui appartient aux Amalécites, il désobéit. Et là, Dieu dit, c'est fini. C'est fini. L'orgueil a atteint tellement un sommet, il s'est dit, bon, je peux m'affranchir de ce que Dieu dit. Malheureusement. Ce qui peut nous arriver aussi, par moments, on s'affranchit. On dit, non, là, Seigneur, bon, Dieu comprendra. Et non. Et contrairement à Saül, on voit que cette femme s'est soumise. On prend maintenant quelques exemples. Il y en a beaucoup et j'ai retenu 3. Le premier, c'est Joseph. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Joseph a eu des songes où Dieu lui montre que sa famille va se prosterner devant lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Joseph? Joseph, à cause de la mauvaise foi, du mauvais cœur de ses frères, se retrouve vendu, esclave. Non seulement esclave, loin de son peuple, loin de son père, loin de son frère et de tous ses frères. Mais en plus, il se retrouve un jour encore accusé, emprisonné. Mais lorsqu'on lit ces passages-là, on se dit, mais est-ce que Dieu a besoin d'aller si loin avec son serviteur? Mais Dieu sait ce qu'il fait, il sait. Joseph était un homme intègre qui craignait Dieu véritablement. Mais voilà le chemin par lequel Dieu l'a fait passer. Voilà le chemin par lequel Dieu l'a fait passer. Mais Joseph est resté fidèle à Dieu. Joseph est resté fidèle. Il a été accusé faussement. Il n'a pas cherché à se justifier. Il a même un jour demandé de l'aide en disant, quand tu sors, souviens-toi de moi. Parle de moi auprès du roi. Et c'est bien écrit, l'homme l'oublia. Parce que Dieu est en train de faire un travail. Et lorsque nous lisons Genèse 49, Genèse 50, lorsque ses frères se présentent à lui, ils disent, mais voilà, Joseph, maintenant, va nous faire du mal. Joseph dit, non, mes frères, vous avez fait le mal. Mais le mal que vous avez fait, Dieu a utilisé cela pour qu'aujourd'hui, Israël soit sauvé. Le mal que vous avez fait, Dieu l'a transformé en bien. Lorsque je lis cette phrase-là, je me dis, Seigneur, que ton nom soit béni. Qu'on ait des exemples comme ça. Que ton nom soit béni. Voilà un homme qui a souffert injustement. Encore qu'on souffre parce qu'on a péché. Mais qu'on souffre parce qu'on aime Dieu, c'est très difficile. Mais voilà la leçon qu'il tire, le bilan qu'il tire. Il dit non, le mal que vous avez fait, Dieu l'a transformé en bien. Dieu m'a utilisé, moi, comme l'objet de souffrance pour vous bénir, vous. C'est terrible. C'est terrible. Mais Dieu a voulu qu'il passe par tout ce chemin-là pour apprendre à dépendre de Dieu. Et un jour, le Seigneur s'est souvenu de lui. Le Seigneur s'est souvenu de lui. Il a connu la gloire. Beaucoup aiment la gloire. Mais on oublie par quel chemin. Le Seigneur nous fait passer parfois. On voit tout ce qui brille. Mais on oublie la fidélité qui est derrière. L'attachement à Dieu. Un homme comme Job, qu'est-ce qu'il n'a pas souffert? Sa femme lui dit, mais tu restes intègre, regarde la situation. Mais comment tu peux rester intègre vis-à-vis d'un tel Dieu? Mais maudit Dieu et meurt, Job dit à sa femme, mais tu parles comme un insensé. Tu ne comprends pas ce que tu dis. Et lorsque nous lisons Job 42, il dit, j'ai parlé autrefois comme un insensé, comme un ignorant. Il dit maintenant, la chanson qu'on chante, « Je reconnais que tu peux tout », Job 42, verset 2. « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. » Et ensuite, il dit, « J'ai entendu parler de toi, Éternel, maintenant, mes yeux t'ont vu. » C'est ça. Le travail que Dieu fait dans notre vie, c'est pour qu'on puisse expérimenter qui il est. C'est pour qu'on puisse comprendre que Dieu seul est digne de gloire et que Dieu est tout-puissant. C'est ça. C'est cela. L'exemple d'une personne comme David. Quelle souffrance David n'a pas vécue. À plusieurs reprises par Saül, qui cherche à le tuer. Mais David considère que c'est un problème entre lui et Dieu. Ces hommes lui disent, regarde, Dieu maintenant donne l'occasion pour faire justice. Il dit non, pourquoi je vais toucher à loin de l'Éternel? David est resté fidèle. Lorsqu'il a même appris que Saül a été tué avec son fils, il a fait le deuil, il était triste. L'héros d'Israël est tombé. Voilà. Mais pourtant, Saül a fait souffrir David. Mais toutes ces souffrances-là, cette méchanceté de Saül, a fait quoi? Ça a grandi l'amour de David. Pour Saül, mais pour les méchants. Toutes ces souffrances-là que David a vécues l'ont amené à se poser les bonnes questions. Il s'est dit, mais pourquoi il m'en veut comme ça? C'est parce que Dieu m'a oint comme étant le véritable roi d'Israël. Alors en tant que roi d'Israël, même s'il n'était pas au trône, c'était un déshonneur pour lui de tuer le roi qui est là, même s'il a été rejeté par Dieu. On se rappelle lorsqu'il se retrouve devant Shimei. David refuse de faire du mal à Shimei. Il dit, Dieu regarde mon affliction. Peut-être qu'en voyant la souffrance par laquelle je vis, l'humiliation où je suis obligé comme un animal à aller de gauche à droite. Il dit, Dieu aura pitié de moi en voyant ma souffrance. Shimei crachait sur lui. À un moment, il arrive quelque part, dans le camp ennemi, on l'attrape. On dit, c'est David, le roi d'Israël. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait le fou. Le roi qui arrive, il dit, mais pourquoi vous m'amenez un fou? Laissez-le partir. Et David part, il fait le psaume où il glorifie le Seigneur. Le psaume 34. Il glorifie Dieu. Mais combien parmi nous ici? Dieu nous sort d'une situation, mais vraiment les genoux à terre. Combien vont dire, oh Seigneur, merci, gloire à Dieu Seigneur, combien? Combien? Mais voilà qu'il est obligé de faire le fou. Et en partant, il fait le psaume 34, il glorifie le Seigneur. Il dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le délivre de sa détresse. Et la Bible dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est ça les exemples que nous devons suivre. L'homme selon le cœur de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples, beaucoup, dans la vie de David. Mais ce sont des gens qui ont accepté le chemin par lequel Dieu les a fait passer. Et ce qui est étonnant, c'est que David avait été ou un roi. Moi, c'est ça qui m'étonne toujours. Encore que tu aies des promesses comme ça. Mais là, tu as été ou un roi. Donc, c'est-à-dire que tu as la légitimité de Dieu. Mais il a accepté d'être comme ça, comme un animal à gauche, à droite. Être humilié. Être piétiné. Être l'objet de raillerie. Il a accepté jusqu'au bout. Son désir, c'est ce qu'il dit dans le psaume 51, il dit, « Seigneur, j'ai un désir, ne me retire pas ton Esprit Saint. » C'est ça ma prière. Alors nous, lorsque le car nous arrive, on en veut à Dieu. Parfois aux frères et sœurs, parfois aux responsables, parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, parce que, non. Et pour finir, l'exemple par excellence, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc 22, on en voit à Gethsémané, au verset 39. C'était dur, très dur. Il prie, il dit, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Il dit, « Mais non, pas ma volonté à moi. » Que ta volonté se fasse. Et il est écrit, un ange est descendu du ciel pour fortifier Jésus. La sueur, des grumeaux de sang qui tombent, qui coulent. Voilà le Fils de Dieu qui a fait des miracles, qui a ressuscité des morts, qui a ouvert les yeux des aveugles, qui a calmé la tempête. Voilà dans quelle situation il se retrouve. A demandé le soutien à ses disciples en disant, soutenez-moi, priez avec moi. Et il est écrit dans Ésaïe 53, 10, « Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. » Il a plu à Dieu de faire souffrir Jésus. Mais il a accepté cela avec joie. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe 53, 10, la fin du verset. Parce que la joie de voir les sauver était tellement grande qu'il a accepté. La chair a souffert, mais il a accepté jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Il y a la polémique. Eh bien, si tu es de Dieu, sauve-nous, mais que jusqu'à la croix, donc humilié jusqu'à la croix. Mais jusqu'à la croix, il a sauvé le brigand qui était à côté de lui. Alors, c'est pour nous dire, si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a accepté tout ça, s'il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est-à-dire qu'il avait été proclamé comme étant bon, correct, juste. Quand on dit qu'il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, ça veut dire qu'il a accepté d'être obéissant dans toute cette souffrance-là pour se soumettre à la volonté de Dieu. Pour montrer sa dépendance à son Dieu. Il a accepté tout cela. Il a accepté jusqu'au bout. Alors si notre Seigneur Jésus-Christ a accepté tout cela, alors à combien plus forte raison nous? À combien plus forte raison? Que le Seigneur nous aide. Moi le premier, que le Seigneur nous aide, s'il faut aujourd'hui prendre la décision de dire « Seigneur, peut-être que ce que tu me demandes me paraît difficile pour la chair. Seigneur, je fais le choix de me soumettre. J'accepte. » Comme le chirurgien qui fait l'opération, il y a un mal qu'il fait, il déchire parfois. C'est impressionnant à voir, mais il faut passer par là pour qu'il y ait la guérison. Et c'est ce que le Seigneur veut faire aussi. Il dit qu'il est le potier. Et il nous travaille. Il nous façonne pour qu'on puisse ressembler à notre Seigneur Jésus, qui, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais s'est lui-même humilié, il s'est abaissé, pris même comme un malfaiteur, il a accepté cela. Et la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À Jésus-Christ seul soit la gloire. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole qui, Seigneur, nous rappelle ce soir que tu es à l'œuvre dans notre vie. Seigneur, tu vois toutes les blessures, Seigneur, dans notre cœur, Seigneur. Tu vois, Seigneur, le péché qui est en nous, Seigneur. Seigneur, nous refusons cela. Tu nous as donné l'esprit, ton esprit, la capacité, Seigneur, de vivre, Seigneur, en obéissant à ta parole, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à accepter le travail que tu fais dans nos vies, Seigneur. Seigneur, nous savons une chose, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, c'est que tout ce qui nous arrive, puisque nous sommes tes enfants, est piloté par toi. Et il y a un objectif, Seigneur. Il y a un travail que tu fais. Nous voulons accepter, Seigneur, d'être brisés. Nous renonçons, Seigneur, à nos pensées, Seigneur, qui nous éloignent de toi. À nos arguments, Seigneur, qui nous poussent toujours à contester. Nos arguments qui nous poussent toujours, Seigneur, à Seigneur, nous opposer à ta parole. Nous refusons cela. Nous prions pour que tu nous aides, Seigneur. Avec tous les exemples que nous avons vus, Seigneur, de tous nos prédécesseurs, Seigneur, qui ont accepté de souffrir dans la chair, mais qui t'ont honoré par leur obéissance. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides aussi. Délivre-nous aujourd'hui. Libère-nous. Que nous puissions accepter le travail de ton esprit en nous. Comme tu dis, Seigneur, que tu nous émondes, Seigneur. Nous prions pour que tu nous aides à accepter cela avec joie, avec foi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous aussi à avoir la bonne attitude, comme ça a été le cas de Anne. La bonne attitude qui va nous pousser, Seigneur, à faire la bonne prière aussi, Seigneur. Parfois, lorsque nous vivons ce brisement, notre attitude n'est pas bonne. Alors nous prions pour que tu nous aides. Être comme Anne, à garder la bonne attitude et à faire la bonne prière au nom de Jésus. Merci pour l'œuvre de ton esprit dans nos cœurs, dans nos vies. Merci de nous délivrer de nos raisonnements, Seigneur. Merci de nous délivrer de notre orgueil, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous aider à accepter, s'il le faut, de paraître comme étant fautif dans des situations lorsque tu nous dis de nous taire. Que nous puissions accepter de passer comme celui qui a tort, mais que nous puissions le faire, Seigneur, pour que toi, tu manifestes la justice. Tu nous dis de ne pas rendre le mal par le mal, Seigneur, de surmonter le mal par le bien. Seigneur, nous reconnaissons que nous-mêmes, nous ne pouvons pas, Seigneur, y arriver, Seigneur. Alors nous venons nous soumettre à toi et te dire, Seigneur, aide-nous. Merci, Seigneur, toi qui es le potier. Merci, Seigneur, pour l'argile que nous sommes. Et merci, Seigneur, pour la patience que tu prends, Seigneur, pour nous briser, pour recommencer, pour travailler, Seigneur, afin que nous puissions ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom. Nous te recommandons le retour de chacun entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen.